Marceau le midi.
Marceau le midi.
All right.
Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que le Québec est encore en vacances? La grosse nouvelle du jour, c'était la chefferie au Parti libéral du Québec avec quatre candidats. Charles Milliard qui est une candidature intéressante, mais pour ce qui est des autres, Denis Coderre, je pense qu'on a tous déjà notre idée qu'il serait pas le prochain chef du Parti libéral du Québec en raison de ses déboires. Là,
mais mon cher Denis, je vais l'appeler Denis, OK? Mon cher Denis Coderre, juste pour placer les gens. On a aussi été assez harcelant, dans la mesure d'être harcelant, soit juste déterminé aussi, là, on était à sa limite, pour l'avoir en entrevue puis y parler.
Il était fessé.
S'il nous dit non à nous, il dit non à plusieurs personnes, c'est pas une manière pour se présenter.
Il était fessé par Dutrisac. Je sais qu'il était fessé par Dutrisac. Puis c'est probablement la raison pour laquelle il va pas dans des stations amies.
Oui, mais Yannick, en politique...
Il va dans des stations amies plutôt que des stations où il va se faire...
Challenger, là, mais ça veut pas dire... On n'est pas ennemis, nous autres.
Dutrisac, le challenger. Non, on n'est pas des ennemis, mais on va poser des questions que Denis Coderre n'aimerait pas. Puis Dutrisac a posé des questions qui étaient hyper pertinentes, puis il a vraiment pas aimé ça. Ce qui fait en sorte qu'il s'est dit, pour la suite des choses, je vais aller dans des stations amies où... je vais être le bon vieux de Denis
mais
Coderre.
Mais je l'ai pas vu à grand place.
Ouais, moi, je sais où il va.
Ouais.
Ouais.
Mais en tout cas.
Je sais pourquoi il va.
Chose certaine, la politique, c'est pire qu'une entrevue avec Marceau puis CV. Là. Qu'est-ce qu'il veut aller à la chefferie du Parti libéral?
Mais il est fessé, Denis Coderre. Là. Il est vraiment fessé. Il s'est fait beaucoup brasser. À tort ou à raison, là, je veux dire, il a mis des choses en place qui ont pas de maudit bon sens. Tu veux te lancer à la chefferie, mais tu règles pas tes déboires avec le ministère du Revenu. Tu sais, C'est un peu bizarre, sa candidature, on va se le dire. Puis je lui souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Je veux dire, il va se marier là, bientôt, de ce que je comprends. Puis je trouve ça super beau pour lui, mais la politique, il devrait penser à faire peut-être d'autres choses. Mais bref, c'était ça la grosse nouvelle du jour. C'était le lancement de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.
Claude Villeneuve qui se présente à la mairie de Québec contre Bruno Marchand aussi, je le mettrais là-dedans. Les conducteurs, les plus de 800 conducteurs arrêtés. Du 29 novembre au genre 6 janvier pour alcool et drogue au volant, 800. Plus de 800 dans cette période-là où tout le monde sait que les policiers sont encore plus présents puis il y a toutes les solutions du monde comme Nez Rouge qui existent. Québec, il ne va pas obtenir un chèque d'Ottawa pour le tramway. C'est une autre nouvelle quand même importante aujourd'hui. Là.
Ça, le maire, il va donner une entrevue tantôt vers 13h30. Jeff Fortin qui va être là. Il n'aura pas le choix parce que le chèque du fédéral, pour l'instant, on ne l'a pas. Le maire doit être en boule à la maison en se disant « Mais qu'est-ce que je vais leur dire? » Tu sais?
Cette bonification-là là, qui était supposée être donnée par le fédéral pour le tramway de Québec à court terme.
Attendez. Ben, le chèque n'est pas dans la malle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ce chèque-là.
Ben, il est dans le cahier.
Il n'est pas dans mal, mais il est pensé. Il va avoir un crayon qui va arriver pour écrire ce fameux chèque-là.
Toi, c'est
ce que je suis en train de vous dire.
Que M. Marchand va dire.
Qu'est-ce que tu veux qu'il dise?
Ben, tu peux dire, ouais, mais M. Marchand, y a-t-il une différence entre le fait que le chèque soit encore dans la pile de chèques avec rien d'écrit dessus versus être dans la malle ou encore sur le bureau? J'ai l'impression qu'il est encore dans la pile de chèques.
Ce que je vous dis, c'est que moi, j'ai eu des assurances et ça va se faire. Cela dit, est-ce que ça va être sur papier ou par formule électronique, là, les transferts d'argent? Ça va se faire.
OK.
Moi, je suis positif.
Okay. Mais si on garde cette cote-là, M. Marchand, là, on va pouvoir la ressortir dans quelques semaines, si vous êtes aussi confiant.
Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais trouver une façon de m'en sortir quand même en vous posant une question suite à votre question.
Et répondre à ma propre question.
Vous êtes en train de me dire que vous aviez une question?
Non, plus maintenant, parce que clairement, c'est vous qui avez posé, M. Marchand.
Vous êtes en train de me dire que c'est moi qui devrais répondre à votre question?
Il ira jamais là. Il ira jamais là.
Heureusement qu'on a des bons collaborateurs comme Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables pour jaser aujourd'hui, qui va nous parler de l'impôt sur le gain en capital. Quel fiasco de la part du gouvernement fédéral. On a mis ça en place, mais finalement, ça n'a pas été voté à Ottawa. Mais le ministère du Revenu du Canada dit « c'est pas grave, on va l'appliquer pareil ». On s'en va où, Nick? On s'en va où?
Ben, c'est une bonne question. Ben, je pense qu'on s'en va vers un litige légal, littéralement, avec l'Agence du revenu du Canada. C'est pas mal dans cette direction qu'on s'en va, essentiellement parce que, comme tu l'as mentionné, l'impôt sur le gain en capital, c'est une belle petite mesure qui a été passée en douce par le gouvernement fédéral dans son dernier budget. Ça avait été annoncé pour permettre au gouvernement canadien d'aller chercher un peu plus de revenus puis de réduire les déficits et en s'attaquant, bien sûr, en s'attaquant aux riches. C'était pas mal le seul but de l'initiative. Au final, on a appris que cette mesure-là a quand même des impacts assez répandus et touche beaucoup plus que juste quelques riches. Ça touche en fait plusieurs centaines de milliers de contribuables. Mais par-dessus le marché, ce projet de loi-là n'a jamais été déposé. Puis on a quand même un fondement dans la Constitution canadienne qui est similaire à celle de la Constitution américaine. Parce qu'on en parle rarement de cette histoire-là, mais la question qu'il ne faut pas y avoir, il ne devrait pas y avoir d'imposition, de taxation s'il n'y a pas de représentation. C'est la raison pour laquelle les Américains ont fait leur fameuse révolution dans les années 1700. Mais au Canada, c'est à peu près pareil. Il ne devrait pas avoir d'augmentation d'impôts tant que les parlementaires à la Chambre des communes n'ont pas voté en ce sens. Donc, la réalité, c'est que cette fameuse impôt sur le gain en capital a été proposé, ça a été mis dans une motion, mais ça n'a jamais été mis dans un projet de loi qui a été voté. Et là, depuis que Justin Trudeau a prorogué le Parlement la semaine dernière, et ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus aucun projet de loi qui était en étude, qui est traité présentement, essentiellement, ils ont tous été tablettés, ça fait en sorte que d'ici le 24 mars, on n'a rien qui a lieu au Parlement, mais on ne sait pas non plus si l'impôt sur le gain en capital au fédéral va s'appliquer. Or, l'Agence du revenu du Canada, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont devoir aller, eux autres, dans leur cas, à eux. Ils suivent une sorte de tradition parlementaire, donc ils vont quand même augmenter l'impôt en se disant, ça s'en venait, donc on va le faire déjà au préalable, puis si jamais c'est renversé, on fait un remboursement. Le problème, c'est que ça va créer un paquet de litiges. Et oui, il y a des gens qui commencent déjà à faire la file et à préparer des plaintes auprès de l'Agence du revenu du Canada pour demander à ce qu'il y ait un accommodement qui soit fait ou sinon qu'il soit simplement épargné de cette augmentation de l'impôt en capital. Donc, c'est tout un bordel, en fait, là, qui s'en vient avec l'Agence du revenu. Mais il n'y a pas juste au fédéral qu'on va être affecté par un tel problème.
Au provincial aussi, là. Girard est dans le trouble.
Ben exact, lui, ça n'a pas pris de temps, ça a pris littéralement 48 heures après que le gouvernement fédéral a augmenté l'impôt sur le gain en capital pour que lui, il sorte en annonçant plutôt qu'il allait harmoniser l'impôt du Québec sur le gain en capital avec celui du régime fédéral. Donc essentiellement, présentement, autant au fédéral qu'au provincial, on a augmenté la marge d'exemption donc de 50% à 66%. Donc tous les gains en capitaux qui sont supérieurs à 250 000 $ vont être imposés à la hauteur de 66%. Sauf que là, il y a un problème.
Okay. Fais-nous une image, Nick, là, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un gain en capital. Fais-moi, mettons, la maison, elle vaut 400 000, elle est payée, puis là, tu vends ta maison, tu as 400 000 dans ton compte en banque, qu'est-ce qui arrive?
Bien, si c'est votre maison, votre propriété principale, il n'y a pas d'impôt sur le gain en capital qui
Parfait.
Est applicable.
Si j'ai un chalet...
Si vous avez un chalet, c'est ça. Là, sur les premiers 250 000 $ par exemple, vous avez un chalet qui vaut 400 000, les deux, premiers 250 000, il n'y a pas d'impôt qui s'applique. Donc ça, vous êtes chanceux. Par contre, pour le 150 000 restant, c'est imposé à, c'est 66,7% de ce montant-là qui est imposé. Donc, sur 150 000, c'est environ 100 000 qui va être directement imposé. Et ça, c'est ajouté à votre revenu. Donc, rendu là, ça va dépendre de quel était votre revenu cette année. Pour savoir ça va être quoi l'impact de cette augmentation-là sur votre revenu. Mais au final, ça va chercher une plus grosse part parce qu'avant, c'était 56%. Là, on a augmenté à 66%. Donc, auparavant, si vous aviez un chalet, encore une fois, et vous le vendiez, avant, vous avez juste 50% de ce qui était au-dessus du 250 000, pardon. Donc, pas pour perdre les gens dans les chiffres, mais il y a quand même une différence de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et au début, quand la mesure fiscale a été proposée par Freeland, c'est-à-dire on va s'attaquer aux riches pour aller chercher des revenus supplémentaires, on ne veut pas pénaliser la classe moyenne ni les travailleurs, on va s'attaquer à ceux qui ont de l'épargne et qui ont des capacités plus importantes. Sauf qu'il y a des études économiques qui ont été publiées récemment qui démontrent que cet impôt sur le gain en capital va toucher plus de 1,2 million de Canadiens au courant de leur vie. Parce que oui, ça affecte pas juste des gens qui ont des gros comptes et qui vendent des actions avec des options, ça affecte aussi des retraités qui ont mis, par exemple, une bonne partie de leurs épargnes pour avoir un bâtiment à revenu, un immeuble à revenu d'une quelconque manière, que ce soit un chalet ou un plex. Et puis, ils arrivent au moment de leur retraite, ils veulent vendre leur actif pour essayer d'aller chercher ne serait-ce que des revenus pour leur dernier jour. Et puis, finalement, ils se retrouvent avec un impôt qui est plus important que prévu. Donc, eux, ils sont injustement pénalisés. Et il faut rappeler que le gain en capital, le capital comme tel est déjà taxé. L'argent que vous mettez pour acheter un plex, par exemple, pour avoir des revenus d'ici votre retraite, cet argent-là a déjà été taxé à quelque part. Donc, le gouvernement va taxer une deuxième fois et là, il augmente cette taxe-là par-dessus le marché. Donc, on peut se dire qu'au fédéral, déjà, ça cause tout un émoi, mais en plus, au provincial, et Girard, lui, a profité du fédéral pour essayer d'augmenter ça en deux de son côté. Sauf que si le fédéral recule, Bien là, le gouvernement du Québec vient d'augmenter l'impôt sur le gain en capital beaucoup trop rapidement. Donc, il va devoir soit changer de direction puis revenir en arrière. Et là, ben, ça va réviser les revenus du gouvernement du Québec d'environ 1 milliard. Sinon, ben, il va devoir continuer à imposer un impôt plus élevé que celui du fédéral et pénaliser injustement les Québécois par rapport au reste du pays.
C'est n'importe quoi. T'sais. Puis, t'sais, quand tu vas te bâtir ce fameux chalet-là, là, chaque morceau de bois que tu vas acheter va être taxé. Chaque produit que tu vas acheter pour bâtir ce chalet-là va être taxé. Puis à la fin de ta vie, quand tu vas vendre ça, ils vont encore venir te voler avec un certain pourcentage. C'est complètement... On vit dans un enfer fiscal.
Ben absolument, puis surtout que cette propriété-là, ben vous payez des taxes municipales, taxes de bienvenue, nommez-les, vous allez payer un nombre incroyable de taxes sur cet actif. Puis à la fin, quand vous allez le vendre, vous allez devoir encore plus payer d'impôts. Donc, ouais, c'est pénaliser des gens pour rien. En plus, le gouvernement, il espérait aller chercher quand même 7 milliards de dollars cette année avec cette mesure-là. Donc, c'est quand même pas rien comme montant d'argent. Mais au final, on a essayé de faire croire que cette mesure-là serait juste là pour pénaliser ne serait-ce que quelques personnes avec des portefeuilles plus importants que d'autres. Mais c'est pas le cas. La réalité, c'est que ça vient aussi de rendre l'économie canadienne beaucoup moins compétitive que celle des Américains. On a un impôt sur le gain en capital plus élevé. Et faut rappeler que on est dans un contexte présentement où est-ce qu'on est sur le point d'entrer dans une sorte de guerre commerciale avec les Américains. Donc peut-être que d'être moins compétitif à ce moment-ci précisément, c'est pas une très bonne idée. Donc, de revenir en arrière sur l'impôt sur le gain en capital, ça serait une bonne idée, autant au fédéral qu'au provincial, pour faire face aux intempéries qui s'en viennent avec les négociations entre le Canada et les États-Unis par rapport à notre commerce. Mais faut aussi dire une chose, là, je veux dire, le gouvernement du Québec, présentement, il est dans une mauvaise passe, parce que s'il recule sur son impôt sur le gain en capital, il vient d'augmenter son déficit de pas loin d'un milliard de dollars. Donc, on s'entend que lui, à tous les niveaux, tant au provincial qu'au fédéral, on a du ménage à faire dans notre cour, mais augmenter l'impôt, ça aurait été l'approche la moins productive et par-dessus le marché, ça amène un casse-tête assez inutile pour un très grand nombre de contribuables.
La fin de semaine, j'étais dans un hôtel, inquiète-toi pas, c'était pas sur le boulevard Ramel, là, c'était dans le secteur de Bromont, puis j'écoutais RDI, puis il y avait un vox pop sur des gens qui étaient consultés pour le fameux programme Rouler vert avec les subventions qui étaient octroyées pour les véhicules électriques. Tous ceux qui étaient consultés, Nick, les gens disaient « Il faut absolument que ça continue, les subventions pour les véhicules électriques. » Mais ils n'ont juste pas pensé que ces subventions-là servent au mieux nanti de notre société. T'sais. Quelqu'un qui a 40 000 $ pour se payer un véhicule électrique, écoute, il va peut-être même payer juste un véhicule à essence parce que ça aurait comme pas de bon sens.
Là,
ça
tu coûte parles cher, des subventions qui ont terminé en fait d'être effectuées. Mais en même temps...
Mais tout le monde était pour ça.
Oui.
Mais ça a pas... C'est même la classe moyenne avait de la misère à s'acheter ce type de véhicule-là. C'est les riches qui s'en sont occupés, qui
collègues.
Ont eu les subventions.
Ça, j'avoue que pour certains, c'était plus facile, mettons, de faire ce virage-là. Puis les subventions, puisqu'elles existaient, ils en ont profité. Mais deux collègues ici, dont un à qui jasais la semaine passée, qui est loin d'être une personne riche, qui est 100% en classe moyenne, deux enfants avec les voyages sportifs qui vont avec, mettons, pour le hockey. Tu sais, très, très régulièrement, ce qu'on voit à Québec, là, n'aurait pas eu une voiture électrique si ce n'était pas cette subvention-là. Puis s'est dépêché de l'acheter avant que ça se termine parce qu'il savait qu'après, il n'aurait pas les moyens, mettons. Après ça, mon père, lui, il a regardé par les subventions pour avoir une voiture électrique parce que sinon, ben, il n'aurait pas eu les moyens probablement ou le désir d'investir dans ce type de véhicule-là. Mais probablement qu'on aurait dû dire que passer un certain salaire... C'est une moindre subvention.
On aurait pu faire ça, effectivement. Je pense à mon chum Jimmy qui a un véhicule électrique. Lui, il ne met pas de chauffage Québec-Montréal l'hiver.
Parce que ça coûte...
Parce que ça coûte trop cher.
Ça, c'est un sacré numéro aussi. Là.
Il était avec les gars de Marlin la semaine passée. Puis Jimmy nous racontait son histoire avec son BMW électrique. Puis il disait qu'il ne mettait pas de chauffage. Parce que sinon, il se rendait pas.
Il était en pantoufle dans
mais
son char.
Es-tu d'accord, Nick, que c'est les mieux nantis de notre société qui ont bénéficié de ces subventions-là, t'sais?
Ben oui, puis non. Ben dans un sens que ceux qui en ont profité dès le départ sont effectivement les plus nantis, parce que ce programme-là qu'on a au Québec, le fameux programme Rouler vert, il existe depuis 2014. Les voitures, on s'entend, les voitures électriques sont encore très chères. Là. Je pense que le prix moyen présentement au Québec, c'est pas loin de 73-75 000 $ pour une voiture électrique. Du moins, c'est le prix à moyen comme tel. Mais en 2014, c'était pas mal plus élevé. On était plus aux alentours du 110, 120 000. Ouais. C'était pas mal plus élevé.
C'était quasiment donc, ceux des cobayes. Ouais, c'est ça, ces gens-là qui avaient. C'était quasiment des cobayes, ces gens-là qui avaient l'argent, en fait, là, même avec la subvention en 2014. Là.
Oui, absolument. On s'entend qu'avec les problèmes de subvention aussi à ce moment-là, c'est environ, encore une fois, c'était 12, ben, c'était 7 000 $ seulement parce qu'il y avait juste le gouvernement du Québec qui subventionnait en plus. C'est juste depuis 2019 que le gouvernement fédéral offre aussi un programme de subvention de 5 000 $ par véhicule. Mais donc, dans ce cas-ci, déjà, les voitures étaient pas mal plus élevées, les subventions étaient moins élevées et la fiabilité des voitures électriques a quand même changé en dans 10-11 ans. Donc, c'est sûr, effectivement, comme tu disais, Pascal, c'était pas mal les cobayes du programme. Puis c'est clair que c'était ceux qui, il faut être nantis, il faut avoir quand même des moyens pour acheter une voiture à plus de 100 000 $. Ceci étant dit, aujourd'hui encore, pour acheter un véhicule à 73 000, c'est pas accessible pour la grande majorité des Québécois ou des Canadiens comme tels. Et oui, le programme de subvention, ça permettait de réduire quand même de manière importante le prix du véhicule. Sauf que là, il y a des mauvaises surprises. En tout cas, en tant que contribuable et en tant que représentant de la Fédération, je peux vous dire que c'est plutôt une bonne surprise pour nous. Parce qu'on va enfin peut-être trouver des moyens pour le gouvernement de sauver de l'argent pour essayer de rééquilibrer ses finances publiques. Mais d'un autre côté, si vous êtes un acheteur de voitures électriques, petite surprise pour vous, mais dès le 1er février, il n'y aura plus de subventions pour les voitures électriques, point. Ne serait-ce que le programme Rouler vert est complètement suspendu. Parce qu'il était à la base, en fait, ce programme-là était supposé se réduire et passer de 7 000 $ en subvention à 4 000 $ à partir du 1er janvier de cette année. Mais il semblerait que le programme était si populaire, il y a tellement de personnes qui sont garochées sur le programme en espérant aller chercher leur subvention avant la fin du programme, que finalement, au lieu de maintenir ce programme-là pour une plus longue durée, le gouvernement a annoncé la suspension du programme de subvention. Donc, au lieu d'avoir 7 000 $ par véhicule ou 4 000 $ depuis le 1er février, le 1er janvier, dès le 1er février, ça va être zéro.
Mais ça, c'est particulier avec le virage vert qu'on veut, puis l'obligation de transférer de la voiture à essence à la voiture électrique, on martèle, on en parle tout le temps de tout ça, on dirait qu'on est dans le jour de la marmotte, mais il faudrait quand même que le gouvernement ait une conscience par rapport à ceux qui sont pas capables d'investir dans ce genre de véhicule-là, que ça soit une exemption d'impôts, une réduction de si, continue une certaine subvention, mais au moins pour donner un coup de main. Si on veut que les gens embarquent dans le rouage qu'ils essaient d'instaurer au niveau électrique, il faut qu'ils donnent une chance, parce que là, en plus, on dirait une farce là, de couper tout ça avant que l'ampleur de tout ce qui souhaite instaurer là, au Québec prenne place. Là.
Ben absolument. Puis c'est sûr, si le gouvernement voulait donner une chance aux contribuables, je pense que il y a deux choses qu'il aurait dû faire en partant. De un, il ne devrait pas faire son fameux projet d'interdiction qui vise à interdire les nouvelles voitures à essence ou diesel pour 2035. Je veux dire, s'il retire les subventions pour essentiellement sauver de l'argent puis faire en sorte que les gens doivent se débrouiller avec leurs propres moyens pour l'achat d'une voiture électrique, ben qu'ils leur mettent pas non plus un deadline à eux puis aux concessionnaires puis aux fabricants en leur disant, ben, écoutez, on enlève les moyens pour les gens de s'offrir une voiture électrique, mais on continue à les forcer à s'en acheter une quand même via les différents mécanismes du marché. Donc ça serait clairement à réviser à 100%. De l'autre côté, c'est le gouvernement, là c'est plutôt au fédéral, s'il voulait être un peu plus productif pour que les gens aient accès à des voitures électriques plus rapidement, mais il y avait juste à pas mettre des tarifs de 100% sur les voitures électriques chinoises. Déjà, ça aide clairement pas le marché, ne serait-ce que l'offre des voitures électriques. Quand on met des tarifs sur des voitures étrangères, sur la prémisse qu'on a peur qu'elles inondent notre marché, c'est une peur qui est peut-être un peu justifiée quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde.
Ça me dérange pas trop, là. je vais mettre à ça, mettons, tout ce qui est sécurité, là, avec des choses qu'on sait, puis j'embarque pas dans le complot, j'embarque dans ce qu'on connaît actuellement, là, en passant, là.
Ben absolument. Puis, je veux dire, j'irais pas non plus faire la file pour acheter une voiture électrique chinoise par principe de mon côté également. Ceci étant dit, le fait d'ajouter de l'offre permet au prix d'être plus bas. Et donc, le fait d'avoir laissé ces voitures électriques-là sans tarif aurait probablement aidé à emmener les autres voitures électriques à avoir des prix plus intéressants. Donc, malheureusement, on a préféré faire des tarifs et clairement que ça joue comme une compression sur le marché et ça maintient artificiellement les prix plus élevés encore. Exact. Alors que les subventions disparaissent. Ceci étant dit, les subventions aux voitures électriques, je suis totalement en faveur à ce que ça disparaisse. C'est pas là qu'on devrait faire des cadeaux. On ne devrait pas faire de cadeaux tout simplement avec l'argent des contribuables pour que certains puissent acheter des voitures électriques pendant que d'autres peuvent s'imaginer que si peut-être 2035, ils pourront peut-être plus s'acheter de voitures parce qu'ils vont avoir moins d'options dans les concessionnaires, puis les prix vont être encore toujours plus trop chers pour ou les voitures vont être trop chères pour la plupart des familles. Donc oui, ça reste une crainte qui est totalement légitime, puis que le gouvernement ait suspendu le programme. Je pense que c'est, je veux dire, il y a une bonne nouvelle là-dedans, mais il doit aller plus loin. Il doit aussi revenir en arrière sur son interdiction des voitures à essence et au diesel et laisser un libre jeu pour que les voitures électriques soient accessibles et que les gens puissent les acheter, non pas parce qu'ils sont forcés de le faire, mais parce qu'ils ont les moyens de le faire.
Oui, puis tu sais, Benoît Charette est très positif là, par rapport à sa fameuse date de 2035. Il avait même mentionné que les stations-service allaient être de plus en plus rares. Excuse-moi, là, mais quand tu sors des grosses villes puis tu vois tous les petits véhicules qui sont à essence, les outils au quotidien qu'on utilise qui sont à essence, on a encore pour des années et des années, puis la date de 2035, possiblement que le PQ embarquera pas là-dedans, là, mais je suis pas mal, quand il va arriver au pouvoir, mais je suis pas mal certain qu'ils vont devoir repousser cette date-là comme d'autres pays l'ont fait, là.
Ben, si on parle, si j'ai bien compris, je pense à mentionner Paul Saint-Pierre Plamondon, le PQ,
ouais, dans PSPP,
Ouais, ben c'est ça. Ma principale crainte, c'est que moi, en tout cas, c'est vrai qu'il y a peut-être des chances que son parti forme le prochain gouvernement, mais il me semble que le Parti québécois et Québec solidaire s'est engagé plutôt à ce que la date de 2035 soit plutôt amenée à 2030. C'est ouais. Ça. Donc eux, ils trouvent que c'est pas assez ambitieux. Mais je pense que si jamais ils arrivent au pouvoir, puis ils vont ouvrir les livres, puis réaliser c'est quoi la situation énergétique et économique du Québec, ils vont peut-être faire un 180 degrés et ça serait à leur avantage. En fait, je les encourage à le faire dès maintenant. Malheureusement, ils appuient encore cette politique-là du gouvernement de la CAQ sur la prémisse que c'est la seule politique qui peut réellement réduire les émissions au Québec. Je suis pas mal sûr qu'il y a d'autres politiques qui peuvent être mises en place sans qu'on interdise à grande échelle des types de voitures en espérant atteindre des objectifs qui, honnêtement, sont inatteignables, à mon sens, du moins pas avec cette approche-là. Mais bon, ceci étant dit, oui, je pense que s'ils veulent être un parti qui parle aux gens, qui parle aux régions, et qui va chercher vraiment l'intérêt de tous les travailleurs, ben, je veux dire, oui, il doit considérer que le virage du tout à l'électrique, c'est un rêve. En fait, pour plusieurs personnes, c'est un rêve de fonctionnaire, c'est un rêve de politicien, mais c'est le cauchemar de beaucoup trop de familles, et c'est aussi le cauchemar des contribuables qui payent beaucoup et qui voient très peu de résultats au final.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, c'est contribuable avec un S.ca, contribuable avec un S.ca. On se reparle la semaine prochaine, mon chum!
Avec grand plaisir. À très bientôt.
Salut. Bye-bye. Nicolas Gagnon. On l'aime bien, ce Nicolas-là. Il est avec nous chaque semaine. D'ici là, vous avez des choses à nous dire. 418-971-1021. 418-971-1021. On reçoit dans les prochaines minutes mon chum David Chabot qui va nous parler des fameux avions CL-215 et 415 qui sont dans le secteur de Los Angeles. On parle tout le temps de plein de sujets avec David, donc il va être là dans les prochaines minutes. L'érudit! David de Chabot. Mais pour l'instant, Linkin Park, What I've Done sur Boulevard.